Nous étudierons ce matin un livre biblique d'une richesse et d'un intérêt exceptionnel. Il s'agit de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste veut dire celui qui rassemble le peuple de Dieu, ou par extension, le prédicateur. L'Ecclésiaste, c'est Salomon. Son livre est en quelque sorte une autobiographie spirituelle. C'est presque une confession dans laquelle il expose le fruit et la conclusion de toute une vie d'expérience. Cette caractéristique attribue à son œuvre une importance extraordinaire, car elle nous permet de suivre l'évolution de la pensée d'un homme dont toute la vie fut consacrée à la recherche du bonheur, une préoccupation qui demeure d'actualité. Le thème du livre est exposé dans les 11 premiers versets du chapitre 1. Le reste du livre découle entièrement de ce thème. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Cette introduction est empreinte d'un profond pessimisme. Elle émane d'un homme qui semble blasé et déçu. Un homme qui semble avoir perdu confiance en la vie, et peut-être même en Dieu. Pendant toute sa vie, il a recherché la satisfaction de son âme, de son corps, de son intelligence, et tous les moyens qu'il a choisis pour assouvir sa soif de bonheur l'ont profondément déçu, découragé et abattu. Écoutez son langage. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là, une vanité. J'ai dit au rire insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? Alors, avec une sorte de frénésie désespérée, il s'adonne à tout ce qu'il est possible de faire sur la terre pour occuper son temps. Architecture, horticulture, élevage, art et musique, etc. Il dit lui-même, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Ces paroles sont quelque peu inquiétantes. Elles nous font penser à des symptômes de dépression nerveuse. Le langage de Salomon est en effet déconcertant, parfois même incompréhensible, surtout si l'on prend quelques versets hors de leur contexte. Par exemple, dans le chapitre 3, j'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, et ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Cela rejoint le langage de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, où il dit avec flamme et indignation, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Mais Paul et Salomon placent leur réflexion au sein d'un contexte qui fournit une solution aux problèmes exposés. Nous ne saurions trop insister sur l'importance de respecter le contexte d'une citation biblique. Il est extrêmement dangereux d'isoler un quelconque verset biblique de son cadre original. Les versets que nous venons de citer, malgré leur apparence de pessimisme, tendent vers une conclusion qu'on ne trouve qu'à la fin du livre. Salomon nous fait les témoins de sa vie, et pour cela, il nous fait part de ses échecs, de ses déceptions, de ses expériences. Il ne nous cache pas qu'il est arrivé au point d'envier les morts qui en ont fini avec la vanité de la vie. Il examine toute chose avec une lucidité impitoyable. Ses réflexions constituent une série de proverbes qui sont nés d'une longue étude de la vie, d'une longue et souvent amère expérience. Par exemple, une de ses réflexions les plus profondes concerne la condition de l'homme en général, qu'il soit riche ou pauvre. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. L'homme désire sans cesse. Plus il possède, plus sa vision est dévorante. Jamais il n'est réellement satisfait. C'est encore là une vanité et une poursuite du vent. Cette expression qui revient continuellement dans le courant de ce livre est comme une obsession. Elle est en même temps une image étonnante de nos agitations et de nos efforts sur cette terre. Nous donnons l'impression de poursuivre le vent comme si nous espérions un jour pouvoir le prendre et l'emprisonner entre nos bras chétifs. La folie de notre attitude réside en ce que nous recherchons le bonheur là où il est impossible de le trouver. Antoine de Saint-Exupéry a peut-être voulu faire écho aux paroles de l'Ecclésiaste lorsqu'il écrit « En travaillant pour les seuls biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. Nous nous enfermons solitaires avec notre monnaie de cendre qui ne procure rien qui vaille la peine de vivre. » Jusqu'à ce point, l'Ecclésiaste nous a dépeint sa vie dans un complet état de désorientation. L'inévitable pessimisme qui s'ensuit est alimenté par le spectacle de la vanité du monde et aussi par l'injustice qui règne autour des hommes, parmi les hommes et par les hommes. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. La souffrance des justes, le bonheur et l'opulence des méchants. Autant de considérations qui révoltent et qui font que certains doutent de l'existence même de Dieu. Pourtant, c'est au milieu de ces considérations déprimantes que, pour la première fois, d'une manière claire, Salomon écarte les nuages de son pessimisme apparent pour nous laisser entrevoir le vrai ciel de sa foi. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Au milieu de cette vanité et de cette poursuite du vent, au sein des anomalies humaines et des injustices cruelles, dans les vexations diverses et les déceptions, l'Ecclésiaste sait où se trouve le bonheur vrai et durable. Il sait que Dieu saura rétablir l'ordre des choses. Dans le dernier chapitre, l'Ecclésiaste donne des conseils et des recommandations aux jeunes. Il les exhorte à la joie et au bonheur pendant les jours de leur jeunesse. Une phrase surtout retient notre attention dans ce chapitre dernier. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. » Et c'est à ce point qu'il décrit d'une manière admirable, pleine de poésie, la vieillesse et le déclin d'une vie humaine. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. C'est vrai que c'est vanité que d'aimer et servir autre que Dieu. » C'est une vanité que de mettre sa confiance dans les richesses qu'il faudra abandonner. C'est une vanité que de suivre les désirs de notre nature humaine et de s'y soumettre entièrement. C'est une vanité que d'espérer une longue vie au lieu de se préoccuper de la vivre bien. C'est une vanité que de vivre sans espérance solide. Vanité, tout est vanité, sans la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements. Car c'est ainsi que se termine ce livre étonnant, inspiré par l'Esprit de Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.